Édouard de Lépine, bonjour.
Bonjour.
Nous allons essayer de survoler l'ensemble de votre vie, sur votre engagement, sur ce que vous avez fait, votre engagement politique, votre période d'étudiant à Paris, mais aussi votre présence ici à la Martinique. Qu'est-ce qui vous a emmené à la politique? Nous allons découvrir tout cela pendant cet entretien. Ce que je voudrais, c'est d'abord vous remercier de nous recevoir à votre domicile, puisque nous sommes dans votre bureau et que vous nous ouvrez les portes avec toutes vos œuvres, votre bibliothèque, tout votre environnement. Nous sommes chez vous. Merci de nous recevoir, Édouard de Lépine.
Mais c'est moi qui vous remercie. Je ne vois pas beaucoup de gens qui, aujourd'hui, en tout cas de journalistes, qui s'intéressent à l'œuvre de Césaire au point de venir m'interroger comme étant l'une des personnes ayant travaillé là-dessus. Je ne connais pas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça intéresse peu de monde?
Ça veut dire qu'à mon avis, bon, on s'est planté. Enfin, en tout cas, moi, je me suis planté quand j'ai cru à la fin des années 90, enfin vers 98-2000, que je laissais tomber la politique complètement et que je me consacrais à Césaire. Je pense que ça méritait d'être connu.
Oui.
J'ai l'impression que il y a plus beaucoup de gens, peut-être à l'époque il y en avait. Peut-être d'abord, peut-être parce que j'étais très proche de Camille d'Ancien. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que ça intéresse beaucoup moins les gens.
Enfin, disons que ce travail est réalisé, c'est 24 ans, 24 années de travail.
Oui, ce travail est réalisé. Ce travail est réalisé. Je crois que c'est vrai. Il est pratiquement achevé. Les tomes 4 et 5 devraient paraître très bientôt. Enfin, j'ai eu des nouvelles de mon éditeur il y a 2 ou 3 jours. Je crois que ce sera prêt d'ici à la fin de l'année. Enfin, en tout cas, j'espère.
Très bien. Alors, pour résumer, Édouard de Lépine, cette œuvre sur laquelle nous allons revenir, et avant de s'intéresser à vous personnellement, comment on peut résumer ce que vous avez fait sur Césaire en quelques mots?
En quelques mots, c'est difficile de réaliser. Je partais en deux grandes périodes, 55, 56, 57, 71, 72, 87, 88, 2008. C'est une soixantaine d'années de vie. Ça commence à l'époque où Césaire était véritablement étudiant à Paris. Il n'a pas encore 22 ans. En 1935, quand il participe, quand il crée d'abord l'étudiant noir, et il n'a pas 22 ans. Et il expose, enfin, à mon avis, l'un des éléments fondamentaux de ce que j'appelle le césarisme, c'est-à-dire l'affirmation de l'identité du peuple martiniquais, de l'identité collective du peuple martiniquais et du droit de ce peuple martiniquais à l'initiative et à la responsabilité. Je crois que c'est ça qui est le fondement même de la politique de Césaire. Et bon, il a consacré 60 ans de sa vie à ça.
Et vous, donc, vous avez repris l'ensemble de tous ces textes, de tous ces écrits politiques, et vous les avez compilés.
Il y a parfois des textes que je n'ai pas trouvés, mais enfin, au fur et à mesure, éventuellement, si les textes viennent à manquer, et il y a tout ce que vous voyez là, c'est Césaire, tout ça, c'est soit les écrits directs de Césaire, soit les écrits,
il y a
une centaine d'ouvrages là-dessus, sous Césaire. Et bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de recherches là-dessus. Enfin, j'espère avoir dit l'essentiel, enfin, ce que je tiens pour l'essentiel en tout cas.
D'accord. Édouard de Lépine, nous reviendrons sur Césaire. On s'intéresse à vous. Vous êtes né le 11 juin 1932.
Ouais.
Vous naissez à Fort-de-France, c'est ça?
Je suis né à Fort-de-France.
Et 13 jours après, vous êtes à Sainte-Luce. C'est quoi?
C'est le mot que répétait ma grand-mère. Parce que bon, ma mère, à l'époque, m'a déposé, si je veux dire, à Sainte-Luce. chez ma grand-mère, chez mes grands, où j'ai eu un traitement d'enfant gâté, enfin, ou en tout cas, je faisais un petit peu ce que je voulais dans cette maison, mais je suis resté là jusqu'à l'âge de 8 ans, à Sainte-Luce. Et après, bon, les aléas de la vie, bon.
Édouard de Lépine, vous dites ma maman m'a déposé. Ça veut dire quoi? Parce que il y a toute une histoire autour de cette affaire. Vous en avez déjà parlé ou pas? Vous voulez qu'on en parle 2 minutes? Parce que.
Non, enfin bon, je pense que je vais en parler par écrit d'abord. Je pense que c'est un truc très, très, très délicat, enfin très délicat. Bon, pas pour moi hein, maintenant, mais pour les autres peut-être. Mais c'est vrai que, bon, être fils d'un curé, ça paraissait pas une chose extraordinaire, ça paraissait pas un truc normal à l'époque. Et j'en ai bavé un petit peu quand j'étais môme, quoi. Bon, ma mère aussi, j'imagine. Bon, si bien que je n'ai jamais parlé véritablement avec ma mère, sinon par téléphone. Et 20, 30, 40 ans après, j'ai eu l'occasion de lui en parler, parce qu'on s'est trouvé à Toulon, où a enterré mon père et elle, là-dessus. Mais enfin, j'ai de très bons contacts avec les parents de mon père. Mais je ne l'ai pas connu, je n'ai jamais connu. J'ai vécu en revanche avec mon beau-père. Ma mère s'est mariée à lui en 45. Et il a été un amour remarquable. Enfin, en tout cas, c'est lui qui m'a permis de poursuivre des études. Bon, je crois que sans lui, effectivement, je n'avais été ni au lycée, ni à faire des études après.
Il faut préciser que votre père, à l'époque, il était comptable
J'étais comptable
à l'usine du François.
à l'usine du François. À l'usine du
Et
François et plus tard à l'usine du Robert.
c'est là que vous êtes devenu du nom de Delépine, puisque
Oui,
ce
voilà,
n'est pas
moi,
votre nom
quand
d'origine.
je suis
Vous
arrivé.
êtes de la famille?
Alors oui, quand je suis à ma famille, la famille Séfise. C'est la famille de ma mère.
C'est Sainte-Luce, ça aussi.
C'est Sainte-Luce, hein, c'est à Sainte-Luce.
D'accord. Donc vous grandissez jusqu'à 8 ans,
Oui,
vous dites
Séfise, quand je
à
suis entré au
Sainte-Luce.
lycée, je m'appelais Séfise.
D'accord. Et vous grandissez donc à Sainte-Luce, vous êtes du bourg ou bien vous êtes, comme on
Non,
dit,
le
de.
bourg, à la lame de la mer, à l'âme de la mer. Je pense pas qu'on est peut-être à 30-40 mètres de bourg, plus proche que d'ici, hein, beaucoup plus proche. Bon, je suis vraiment là. Je suis resté là jusqu'à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, bon, dégression, je n'étais pas un garçon très, très correct, très poli, très docile, etc. J'ai envoyé promener un maître et puis on m'a foutu à la porte. Et ma mère a dû me prendre, et donc j'étais au François. Et je suis tombé sur un maître remarquable qui s'appelle Nazaire Léhautin, grâce à qui je dois tout, parce que je crois que c'est vraiment cet instituteur qui m'a vraiment aimé, appris à aimer l'école et à travailler, à travailler, à travailler. Et Nazaire a été vraiment l'une de mes chances. J'en ai eu quand même pas mal, l'une de mes chances dans ma vie, quoi, je pense.
D'accord. Alors, nous allons revenir sur cet épisode du François, mais il faut préciser tout de même que
Oui.
dès le départ, dès le groupe préparatoire, vous êtes quand même un élève sérieux, puisque vous avez chaque mois votre tableau
Oui,
d'honneur.
j'étais sérieux. Enfin, bon, non. Il y avait sinon une peu de discipline, mais j'ai été foutu à la porte, peut-être, où je me suis mis à la porte moi-même, ce qu'on appelle la tite, c'est-à-dire avant l'école maternelle. Hein, j'ai fait à peu près, je sais pas, 2 ou 3 heures là-dedans, cette école maternelle, à Sainte-Luce. Et puis, à la première récréation, je suis parti à la nage, et tout nu, parce que à l'époque, on ne se baignait pas avec, il n'y avait pas de slip. Hein. Je suis remonté chez moi, à la nage, à poil, et puis j'ai décidé de ne plus aller à l'école, quoi. Et ma mère m'a appris à lire et écrire
Elle-même.
elle-même.
Elle était lettrée, votre mère, il faut le préciser. Je crois qu'elle avait déjà
elle avait
son
brevet. C'est extraordinaire. Parce qu'avec un brevet, un peu plus tard, elle aurait été peut-être institutrice ici. Mais à l'époque, non, c'était...
Mais elle faisait quoi, Edouard, votre mère?
Elle travaillait, bon, elle travaillait chez Bonne, elle travaillait dans un... À l'époque, elle travaillait dans une boutique à Rivière-Pilote, chez le maire, qui s'appelait M. Hénel. Et elle travaillait à l'époque, elle vendait dans la boutique.
Hénel était habité Saint-Luce aussi, Hénel. Oui. Il avait une boulangerie, je crois.
Il était ni de Saint-Luce ni de Rivière-Pilote, mais plutôt du Diamant, d'ailleurs, c'est Hénel. Mais enfin, bon, son principal truc, le lieu d'attache, c'était Rivière-Pilote, me semble-t-il. Mais il était maire de Saint-Luce.
D'accord. Alors, nous sommes vers les années...
Fin des années 30, j'ai dû partir là en 39.
Et vous arrivez au François? Et
j'arrive au François, j'arrive chez les Hautains. Enfin, non, c'est pas les Hautains, parce que la première personne qui m'a véritablement intéressé à l'école, c'est une dame qui s'appelle Madame Lise Miron. Elle était institutrice. C'est une femme remarquable, vraiment extraordinaire. Moi, encore une fois, j'ai eu du pot à l'école, quoi. C'est une femme remarquable, Madame Lise Miron. Hein, j'étais entré dans un truc de CE1, je crois, pas CE1, ouais, ou CE1, elle m'avait fait venir en CE2. Et bon, comme je travaillais, quand ma mère venait, je travaillais avec elle, etc. Bon. Je suis passé de CE2 au cours élémentaire, au cours moyen 2. Et bon, j'ai eu du pôle en classe.
Et vos parents habitent aussi le François ou ils sont déjà au Robert?
Non, au François à l'époque. Ma mère travaillait au François, elle vivait avec Guillaume de Lépine, bon, qui m'a adopté par la suite en 1945. Et. Bon, mais bon, c'était pas facile, les relations, parce que moi, j'étais à l'âge de 13 ans, j'étais un militant de la jeunesse communiste. Et bon.
Vous dites à 13 ans, Edouard.
Eh oui, 13 ans. 13 ans, je suis entré à l'UJRF, l'Union de la Jeunesse Républicaine de France. Je l'appelais l'Union de la Jeunesse Républicaine de France, mais à l'époque, c'était la jeunesse communiste.
Mais vous rentrez à la jeunesse communiste, vous dites. Mais votre père, il travaille à l'usine, vous allez le faire foutre dehors. Là. Qu'est-ce que c'est... Enfin, on ne sait pas que vous êtes communiste, alors que votre père, je crois, il est comptable, c'est-à-dire qu'il a la connaissance des chiffres.
Ah oui. C'est vraiment, je pense que ça lui a coûté cher. Enfin, ça lui a coûté cher. Ça a failli lui coûter cher parce que je crois qu'il faisait trop bien son travail. On ne l'a pas foutu à la porte tout de suite, comme, enfin. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile. C'est pas facile, ni pour lui, ni pour moi, d'ailleurs, parce que, bon, à l'époque, c'était un truc invraisemblable, parce que, bon, j'allais à Basse-Pointe vendre le journal, ou j'allais au François, j'allais vendre le journal Justice. Et, bon, je pensais avec les communistes du Robert, Monsieur Labour, qui était sur le Monde juste en face, Jules Laverne qui s'habitait à Monero, au Corançon, qui habitait le bourg, enfin bon, Bernard, c'est pas Bernard, qui habitait Trouter, enfin bon, c'était les seuls gens que je fréquentais. Bon.
C'est ça. Ça vous empêche pas? D'être toujours là, encore un excellent élève, et vous passez votre bac, vous êtes bachelier, et vous partez pour Paris. Nous sommes en quelle année?
Le 21 septembre 50. Le 21 septembre 50.
Deux ans avant, on fête 1848 à la Martinique.
Oui, à la Martinique, au lycée Selchin, c'était le centenaire de l'abolition de l'esclavage.
Mais attention, Edouard, on ne fête pas le 22 mai 1848.
Non, pas du tout.
On fête le 27 avril. C'est bien ce que vous dites.
Le 27 avril. J'étais dans la cour à applaudir à Auville Xavier. C'était un copain de classe. On était dans la même classe, parce qu'à l'époque, on était en première, en première A, ou en première A2, je pense, ou un truc comme ça. Ou il était en première B, lui. Mais il disait très bien les poèmes, il vit très bien les textes. Et Léo avait récité un texte de Lamartine, me semble-t-il, sur 48. Puis nous écoutions, puis nous bavions, parce que, encore une fois, bon, nous connaissions les textes de Césaire, nous apprenions ça par cœur. Il y avait des gens qui vivent encore, hein. Le docteur Amar, au François, était un des militants communistes de cette époque, Victor Crater, c'est des gens qui vivent toujours, qui sont là. Enfin,
il faut dire que Césaire, il est communiste toujours. Il n'a pas encore fait sa lettre à Maurice Thorez.
Non, elle viendra beaucoup plus tard, en 1956.
Et donc, Césaire fait partie des personnes que vous admirez déjà à l'époque.
Ah, oui,
et
oui,
il vous fait cours.
Oui, on récitait ça. Hein, bon,
vous vous souvenez de textes de Césaire?
Oui. Le discours de la distribution des prix du pensionnat colonial.
On vous écoute, Edouard. On vous écoute.
Oui. Qu'est-ce qu'un poète ? Sinon, un homme qui s'ouvre à toutes les injonctions de la logique s'obstine à croire que le jour est aussi clair, que la nuit est aussi claire que le jour aussi mystérieux que la nuit, qu'il y a des mots pour accélérer le temps, pour l'arrêter. Bon, c'est un truc incroyable. On récitait ça.
C'est ça.
On récitait ça par cœur.
Donc, vous arrivez à Paris, vous êtes jeune communiste.
Oui.
Vous êtes un élève.
Maurice Thorez en plus.
Oui, vous êtes un élève consciencieux.
Oui,
vous,
oui.
Découvrez Paris, vous découvrez la culture, vous rencontrez des cinéastes,
gens,
vous rencontrez des gens.
Des gens parfois célèbres. Hein. Gérard Genette, qui est un des meilleurs critiques littéraires que je connaisse encore aujourd'hui. Gérard doit avoir un an ou deux de plus que moi, 86, 87 ans. Des gens comme Jean-Claude Carrière, qui était le metteur en scène de Louis Malle. Des gens comme notre camarade, qui a un dictionnaire de la bêtise. Vraiment des types assez extraordinaires.
Mais vous rencontrez aussi Césaire, parce que vous êtes toujours taraudé par la politique. Césaire, il est déjà élu député.
Et
vous le rencontrez à Paris aussi.
Oui, c'est lui qui me donne ma première autorisation d'assister à un débat à l'Assemblée nationale. Bon, parce qu'il fallait une invitation du député. Oui, une invitation. Bon, j'ai dû assister à un débat la première fois, j'avais pas 20 ans, je pense. Ou juste 20 ans, 52, 53, quoi.
Mais vous partez, Édouard de Lépine, pour être professeur de lettres. À l'époque, vous pensez pas que vous allez finir par être historien. Vous partez faire des lettres.
Je crois pas, non. À l'époque, d'ailleurs, j'allais dire on s'en fout. Non, c'est pas on s'en fout, mais à l'époque, l'objectif, c'est d'intégrer l'école. Et d'ailleurs, l'école normale supérieure, c'est le rêve de tout Martiniquais un peu sérieux qui croit. Bon, malheureusement, on n'a pas eu des masses, hein. On a eu deux ou trois après Césaire, dont le Marcel Lucien qui a été, à l'époque, il devait avoir un an de plus que moi, enfin, il était en philo quand j'étais en première. Mais bon, l'objectif c'était l'école. Et on passait des certificats, on passait des écrits de certificats, juste pour être sûr d'avoir la bourse l'année prochaine. Parce qu'une fois qu'on a été admis à l'écrit, à l'oral, on avait la bourse. Donc, bon, une fois qu'on avait passé, on s'en foutait un petit peu.
Quoi. C'est ça. Et vous êtes boursier. Ça veut dire que vous avez des moyens, mais la première année, malgré tout, vous n'avez pas tout l'argent dès le départ.
Non.
Vos parents vous envoient de l'argent depuis la Martinique.
La première bourse que j'ai touchée en juin. En juin 51,
à la sortie, donc.
Les 9 mois, ensemble.
Mais ça fait un paquet d'argent. Vous pouvez acheter presque de la terre ici.
Non, j'ai acheté, je pense. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas les trucs qu'il fallait aller laver ça dans les trucs. Bon, on ne mettait jamais une chemise plus d'un jour. Donc, j'ai dû acheter une vingtaine de chemises au minimum. Quand je suis revenu avec ça en internat en octobre, on m'a dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dû laisser ça chez une amie à Paris, quoi. Mais bon, c'est vrai. Bon, donc, je pouvais aller au cinéma 10 fois sous les grands boulevards, donc, alors que j'avais jamais mis les pieds sous les grands boulevards avant, quoi.
Mais c'est aussi l'occasion, peut-être, Edouard, on en parle jamais, mais les études, la jeunesse, la beauté, non, enfin, je veux dire, c'est aussi la période...
Moi, je passais mon temps entre le Luxembourg et la Sorbonne. Il y avait une bonne dizaine de librairies remarquables. Comment ça s'appelait déjà? Les presses universitaires de France, c'était à l'angle de la rue qui mène à Sorbonne, entre le boulevard Saint-Michel là. Bon, je passais mon temps là-dedans.
Mais vous avez aussi une place que vous réservez aux filles, ça existe quand même à l'époque. On est jeune, enfin, je veux dire, on est précoce. Paris, Balnègre et compagnie, tout ça, enfin, ça fait de la rencontre.
Pas tellement. J'ai découvert le Balnègre peut-être pendant la Noël de 1950. Je me rappelle qu'il y avait à la maison un homme qu'on a beaucoup entendu parler, François Fanon, qui était très bien avec mon cousin Albert Dorion, qui m'avait retenu une chambre aux 4 rue Bertrand, et pour aller au Bal Blomé, qui était à peut-être 500-600 mètres de la rue Bertrand où je me trouvais, quoi. Et le Bal Blomé, dans le 15e, c'était tout à la limite du 7e et du 15e arrondissement, et c'était... Mais j'étais pas vraiment très chaud dans ce genre de truc.
Vous étiez plutôt tourné vers la chose politique.
Ou bien les livres, ou bien le cinéma. Il y avait un cinéma, notamment dans le 11e, à côté de la République, où on passait les films soviétiques. Et moi, j'étais un pro-soviétique incroyable. Moi,
on y reviendra, puisque vous revenez à partir de ce moment-là, lorsque vous avez terminé vos études à Paris, où vous passez pratiquement 6 années, Vous revenez à Fort-de-France en 1959.
Oui, oui. Je suis revenu d'abord au moment de la démission de Césaire, en 1956. Je suis venu avec l'espoir, enfin, de l'intention, en tout cas, de soutenir Césaire là-dessus en 1956. Bon, j'étais assez mal reçu.
Quand vous dites soutenir qui?
Appuyer sa démarche, parce que j'ai vu Césaire à peu près tous les jours. Entre le 24 octobre, la parution des extraits de la lettre à Maurice Thorez dans le France Observateur, le journal France Observateur, jusqu'au moment de son départ pour la Martinique, autant que je me rappelle, un dimanche, c'était le 17 novembre, me semble-t-il, le 17 novembre 1956.
Mais vous êtes toujours communiste, Edouard, c'est-à-dire que vous
suis,
faites...
Enfin, je suis communiste, mais pas communiste, normalisé, je veux dire, en discussion tout souvent avec le Parti communiste français, vraiment à bout de nerfs, parce que quand en mars 1956, les communistes ont voté les pouvoirs spéciaux à Guimolé pour faire la guerre en Algérie, c'est un truc que les étudiants communistes ont très mal vécu. Je me rappelle avec les étudiants algériens, y compris avec un copain étudiant qui est mort dans des conditions tragiques après, parce qu'il a foutu le camp, il a rejoint le FLN, exactement, il a rejoint le FLN. Enfin, il a voulu créer son propre truc armé, son propre groupe armé en Algérie, et Inal Ahmed. Et bon... Il a été tué dans des conditions atroces.
Oui. Nous sommes donc, je répète, aux alentours des années 1959. Oui. Vous êtes, disons, communiste.
Oui, oui.
Mais vous êtes surtout socialiste, parce que toute cette époque, c'est aussi Castro.
Oui, socialiste, non. À l'époque, il ne faut surtout pas confondre, parce que à l'époque, socialiste... Les socialistes sont sur le point d'ailleurs de casser avec la candidature de Defferre aux élections de 69, me semble-t-il, contre Pompidou. Les socialistes, on considère sinon comme des traîtres, mais enfin, On n'a pas beaucoup de respect pour ces socialistes-là. Après, enfin, à Épinay, quand ils vont faire le congrès d'Épinay et ils vont abandonner le vieux, l'expression section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, pour devenir le PS, c'est-à-dire le Parti socialiste. Bon, c'est vrai que, bon, mais même à l'époque, moi, c'est vrai qu'à l'époque, ils font un programme commun avec le PC, mais on est. Enfin, en tout cas, moi, je suis probablement plutôt un sectaire. Je veux dire, à l'époque, vraiment très staliniste,
Ça veut dire quoi, oui.
tout en
Oui.
condamnant Staline d'ailleurs.
D'accord.
Mais je suis très stal, très, 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 bon, très orthodoxe.
D'accord. Alors, mais vous êtes dans la Caraïbe et vous n'êtes pas insensible à ce qui se passe à Cuba. Je crois même que vous avez rencontré, plus ou moins, que vous êtes allé là-bas.
Oui, je suis allé deux fois. Je suis allé en 66 pour le congrès, la tricontinentale, la réunion de la tricontinentale, c'est-à-dire les peuples, la rencontre des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, en janvier 66. Et l'année suivante, en juillet 67, je suis allé pour l'Organisation latino-américaine de solidarité. Je conduisais la délégation du Parti communiste. La délégation du Parti communiste, mais en même temps, le Parti progressiste martiniquais avait donné son accord pour signer ça, le Parti socialiste, la CGT, l'Union des femmes, etc. C'est-à-dire que j'étais le responsable de la délégation avec un autre camarade qui s'appelle Marcel Manville. Bon, Marcel est mort depuis quelque temps, mais bon, à l'époque.
Une époque qui vous a touché, puisque il se dit que vous connaissez pas en cœur
Ah
les
ben oui.
textes de la révolution cubaine. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Oui, non, non, c'est vrai, parce que,
On peut
bon,
vous écouter, Edouard, sur ça.
oui, non, oui, non, c'était un terme en tout cas, je récitais à tous mes copains, mes copains qui connaissent rien l'espagnol, d'ailleurs.
On peut vous écouter parce que j'ai appris que vous avez appris à parler espagnol pour
Oui.
bien comprendre la révolution
Oui,
cubaine.
entre autres, oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Et ça me paraissait vraiment extraordinaire. Ahí, donde están cerrados los caminos de los pueblos, donde la represión de los obreros y campesinos es feroz, donde es más fuerte el dominio de los monopolios yanqui, lo primero y más importante es comprender que no es justo ni es correcto entretener a los pueblos con la vana y acomodaticia ilusión de arrancar por vías legales que no existan ni existirán a las clases dominantes, atrincheradas en todas las posiciones del Estado, dueños de todos los vehículos de divulgación, poseedoras de infinitos recursos financieros, un poder que defenderán a sangre y fuego con la fuerza de sus policías y de sus ejércitos. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. C'est un truc extraordinaire, un truc de ça.
Et vous le connaissez pas encore, ce
Et
texte.
je ne le connaissais pas encore, parce qu'à l'époque, effectivement, j'ai passé des années à réciter ça aux membres, Gilbert Pagot, les autres types de la jeunesse communiste, quoi.
C'est quoi? C'est l'époque des idéologies?
Oui, c'est vrai que les idéologies actuellement occupent à l'époque, occupent une très grande place dans nous, parce que, bon, enfin. Alors, c'est plus là, mais je ne sais plus. Oui, ça, dans mes archives, dans ma bibliothèque, quoi, il y avait là les 40 volumes de Lénine qui étaient là. Un petit peu après, à côté, il y avait Trotsky. Bon, aujourd'hui, il y a Césaire, enfin bon. Non, j'ai. Je pense que je dois avoir 3 ou 4 000 livres dans la maison. Enfin,
Sur la question des idéologies.
non pas sur la question des idéologies seulement, j'ai aussi des romanciers ou des poètes, j'ai tout Balzac ou des trucs de ce genre. Mais enfin, bon, l'histoire de la Martinique, l'histoire de l'esclavage, tout ce rayon, c'est l'histoire de l'esclavage, par exemple, tout ça en face, il y a là une centaine de bouquins, un peu plus d'une centaine de bouquins.
Nous sommes, Édouard de Lépine, en 1968. Vous
Oui.
êtes au bureau politique du Parti communiste.
Oui. Oui, j'ai été élu au bureau politique du Parti communiste en 1963. Au 20e congrès, oh, pardon, pas au 20e congrès, après le 20e congrès du PCIS, par conséquent, mais c'est le 4e congrès du parti, ou le 3e congrès du parti, le 3e congrès du parti.
Mais Césaire a fait sa lettre en 56.
56, c'est-à-dire 7 ans avant.
Et vous êtes là toujours. Césaire n'est plus là, mais vous êtes au Parti communiste.
Au départ, j'étais prêt à suivre Césaire, hein. En 56, je suis venu l'accompagner ici. Hein.
Est-ce que vous pensez que son départ était une décision politique ou une décision idéologique?
C'était une décision politique, c'est vraiment, c'est insupportable. Enfin bon, j'ai rencontré beaucoup plus tard, j'ai produit ça d'ailleurs. Un jour, on avait décidé d'organiser ici, hein. Je crois que c'était pour le 50e anniversaire de 56 de la démission. J'étais pas très chaud pour participer à ça. En tout cas, c'est pas comme ça que je le concevais. Mais enfin, on avait invité des tas de types. Je me rappelle, on avait invité, entre autres, un camarade, pour lequel j'ai eu dans le temps beaucoup de respect, il s'appelait Branchy. Et bon, qui avait raconté n'importe quoi vraiment, et ça m'avait vraiment foutu en boule. Mais j'ai rencontré, mais à l'époque, vers la même époque, en 2006, il y avait de passage ici Marie-Georges Buffet, qui était la secrétaire nationale du PCF. Elle était allée voir Césaire vers la même époque. Et je me rappelle un jour, Césaire me dit que Marie-Georges Buffet était venue la voir, et que c'était très bien passé. Et bon, ça ne me surprenait pas parce qu'effectivement le PC a commencé à réfléchir très tard, 20 ans après la lettre, 22 ans après la lettre à Maurice Thorez, parce que jusqu'à 78 à peu près, le parti parlait du rapport attribué à Khrouchtchev pour parler du rapport du 21e congrès du parti communiste soviétique, hein. Du rapport attribué à Khrouchtchev. Ils n'ont commencé à voir ça qu'en 77, 78, c'est-à-dire 21 ans après. Bon, mais à partir de 78, disons, pendant toute la période, les communistes français ont fini par reconnaître qu'ils s'étaient beaucoup trompés sur ça, sur cette période-là, sur ce que nous avions enseigné à l'école. Moi, les écoles du parti, moi, j'ai suivi ma première école de forme la section du 15e du Parti communiste français, en 51-52, je pense, un truc comme ça, mais on racontait vraiment n'importe quoi,
mais,
y compris moi-même.
Oui. Et à cette époque-là, une histoire vous bouille avec Césaire. C'est cette fameuse lettre, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Ah, oui.
Racontez-nous cet épisode.
Non, à l'époque, j'étais venu soutenir Césaire. Et vraiment, les camarades m'ont parfois foutu à la porte de façon malhonnête, si je puis dire.
Quand vous dites les camarades, vous parlez...
Les camarades du PC, les camarades du Parti, qui n'est pas encore le Parti communiste martiniquain. C'est une fédération. Elle va devenir le Parti communiste martiniquain en 57. Mais bon, qui avait condamné Césaire très violemment, très durement, avec des trucs imbéciles, vraiment. Je trouvais ça très drôle. Mais quand les césaristes, enfin les gens, les amis de Césaire ont répondu en février 57, après les élections du 10 février 57, quand ils ont répondu en disant de la part des familles Bissol, Lamont, Gratien et toute la racaille, vous êtes prié d'assister aux obsèques du PCF, décédé à l'âge de 11 ans. L'inhumation aura lieu, la levée du corps aura lieu à la mairie de Fort-de-France. L'inhumation aura lieu au 32 rue Émile Zola. Et une prière, s'il vous plaît. Et puis les gens défilaient derrière un petit cercueil blanc de l'enfant de 11 ans, puisque pour eux, le parti avait 11 ans, c'était 45-56. Et ce cercueil s'était arrêté devant chez Gratien, à l'avenue Jean Jaurès, au 19, me semble-t-il, l'avenue Jean Jaurès. Je pense que c'était au 19 à peu près. Et bon, moi, j'étais chez Gratien à l'époque. J'étais chez Gratien. Et il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres. J'étais chez Gratien à l'époque. Et vraiment, ça m'avait bouleversé. Je pleurais de rage. je pleurais de grâce.
Et vous en avez discuté avec Césaire?
Alors, je n'ai pas pu voir Césaire tout de suite. Alors, je suis parti tout de suite après. Et je lui ai porté ça vers l'époque des examens, en plus, en juin, je pense, avec un copain qui était un ancien du Parti communiste également, qui était Jacques Adélaïde Merland, qui était un prof d'histoire également. À l'époque, il était en train de terminer, ou il venait de terminer, je pense. Césaire m'a dit, tu crois que j'aurais dû interdire au peuple de s'exprimer? Alors, j'ai dit, mais non, tu vas pas interdire, mais tu vas pas laisser passer ce genre de truc là, parce que c'est un truc dégueulasse. Alors tu es pour interdire ça au peuple? Vraiment, j'ai très mal pris ça.
Et là, c'est une rupture.
Oui, là, pendant 7 ans à peu près, jusqu'à ce qu'une manif à Fort-de-France, où une manif, il y avait l'histoire de tricot, où des jeunes blancs voulaient interdire aux nègres de porter ce tricot.
Alors, c'est quoi encore cette histoire? Rappelez-nous.
Le tricot blanc, où il y avait, je ne me rappelle plus l'expression qu'il y avait dessus, mais enfin, il y avait des petits blancs qui avaient décidé que les nègres ne devaient pas porter ça. Et bon, bien entendu, puisqu'on leur interdisait, c'était une invitation à porter ça. Et nous, on allait acheter assez ça. Et bon, les gens manifestaient dans la rue. Et à peu près, tout près de chez moi, 200-300 mètres. Mais comme ça arrivait souvent, chaque fois qu'il y avait un petit problème dans la rue, dans les rues en ville, les jeunes gens venaient me chercher. Et je suis allé, et même d'autres avaient été chercher Césaire de l'autre côté. Et Césaire est venu aussi là-dessus, nous sommes arrivés à peu près au même moment. Et il y avait mes camarades de la jeunesse communiste qui le traitaient de Kerensky, Menshevik, etc. Et Césaire m'a dit, c'est toi qui as pris ces petits imbéciles, après Menshevik, est-ce qu'il sait qui c'est Kerensky? Alors je lui ai dit, moi c'est le peuple, tu veux interdire au peuple? Je lui ai répété exactement ce qu'il m'a dit. C'était plutôt un 57, quoi.
C'est ça. Et lui, donc, il s'occupe de la ville de Fort-de-France. Il est député. Il écrit.
Mais j'ai appris ça après. J'ai mis du temps à découvrir ça.
Mais c'est quoi? C'est à cette époque un problème de personne ou quoi, Edouard?
Non, il y avait tous les désaccords sur l'Union soviétique, sur ce qui s'est passé en Union soviétique, sur la situation dans les démocraties populaires, notamment en Yougoslavie. Césaire avait de très bons amis dans ces pays-là. Quand il a été en Pologne, quand il a été en Allemagne de l'Est, quand il a été en Yougoslavie, c'était incroyable, mais c'est surtout la position du Parti communiste sur la question coloniale, notamment tout ce qui concerne la guerre d'Algérie. Et vraiment, Césaire n'a pas supporté ça. Puis bon, il y avait les questions littéraires, c'est-à-dire la question, notamment l'intervention d'Aragon, sur les problèmes sur la construction, la poésie nationale, un débat sur la poésie nationale. J'ai publié les textes là d'ailleurs. Ça peut paraître extraordinaire qu'on voit ça aujourd'hui, où De Pestre avait fait le malheur de dire qu'Aragon pouvait avoir raison, enfin en tout cas, etc. Et je me rappelle, De Pestre était très très lié à Césaire. Césaire l'aimait beaucoup. Et Césaire avait été assez mal pris ça.
Mais est-ce qu'à cette époque, vous êtes toujours ou déjà indépendantiste?
Non, à l'époque, non. Je commençais peut-être à me poser des questions. Mais à l'époque, j'étais un militant discipliné. Je ne suis devenu indépendantiste dans les années 65-66, c'est-à-dire à l'époque de la révolution cubaine, où je me disais, on ne peut pas continuer comme ça. Mais je suis resté de cette position-là.
Vous êtes surtout guévariste?
Oui, à la limite guévariste, mais davantage fidéliste. Fidéliste, je crois, que guévariste. Mais bon, cela dit, c'est vrai que Guevara, c'est un homme. Je crois que, alors que tous mes bouquins sont fidèles, je les ai foutus De l'autre côté, Wakam, tout ce que Guevara est ici. Hein. Tous les textes de Guevara sont là.
Vous continuez à être communiste jusqu'en 1968, et là
Le GRS est une organisation communiste. Hein. C'est une organisation communiste. Le GRS, groupe Révolution Socialiste, c'est-à-dire, nous sommes comme un appartenant à la 4e internationale communiste. Hein, les trotskistes sont des communistes. Les trotskistes, enfin non, maintenant, ils sont en train de renoncer, me semble-t-il, à ça aussi. Mais enfin, c'est autre chose. Mais à l'époque, bon, on est des militants communistes, on se croit pour les seuls communistes.
Et vers 1968,
oui,
il y a un clash.
Il y a un clash, c'est le moment où Fidel approuve l'entrée des soviétiques en Tchécoslovaquie. C'est-à-dire où Fidel approuve les gens qui ont écrasé la révolution tchèque. C'est un truc que j'ai jamais pu digérer ça. Je peux réfléchir depuis plus de 50 ans maintenant. Non, je n'arrive pas à comprendre ça. Je suis jamais arrivé à comprendre ça. Mais enfin, je suis jamais arrivé à comprendre. J'ai commencé à comprendre aussi beaucoup plus tard. Parce que je suis revenu à Cuba. Après, j'ai été à Cuba en 66 et en 67. Et je suis revenu là en 2000-2001, comme je me rappelle. Et vraiment, c'était une déception incroyable. Enfin, en tout cas, j'avais jamais imaginé ça. Bon.
Et là, vous arrêtez d'être communiste, vous devenez véritablement indépendantiste.
Bon, je continue à croire que l'idée communiste, c'est une très grande idée. Mais je ne vois pas très bien aujourd'hui, en tout cas, je ne vois plus très bien comment on peut concilier ça, enfin, l'existence, y compris de pays comme Cuba aujourd'hui, malgré les progrès qu'on a pu réaliser dans ce domaine-là, ou bien le Venezuela actuel. Je ne comprends pas ça.
Et là, vous fâchez avec vos amis communistes? Parce que vous êtes, oui, me semble-t-il, à ce moment-là, sur cette prise de position, vous êtes exclu de l'organe de décision.
Je suis exclu mais c'était pas ça, c'est en 71 que j'étais, en 68 que j'étais exclu du Parti communiste. Hein. C'était pas spécialement, c'était lié à ça aussi. Hein. En particulier, je me rappelle le dernier comité national. Au comité central, plus exactement, ça s'appelait, auquel j'ai participé à la mairie du Lamantin, où Armand Nicolas était en train de lire un rapport, de nous lire le récit de ce qui s'était passé à Saint. Et moi, à l'époque, les journaux ne se vendaient pas, on ne trouvait pas ça facilement en librairie, il fallait aller acheter, si on voulait avoir ça, on allait acheter ça à l'aéroport. Donc j'allais prendre le journal avant le comité national, et je suis arrivé là-dedans, et je m'appelle, il y avait un copain à côté de moi, qui était le docteur Félix Amand, et je lui dis, non, Félix, c'est pas pièce de rapport, il est en train de lire un article études soviétiques, là, et Félix, il y a beaucoup de culot, dit à moi, si tu es en train de nous lire un article de l'étude soviétique et puis tu nous fais croire que c'est toi qui raconte ça, ça a foutu le bordel. Les gens, Méniler, commençaient à dire, mais oui, Delépine connaît le russe, il apprend le russe. Et il connaît le russe, et puis un autre crétin à côté a dit, et puis il a traduit lui-même, que c'est... aussi un seul type qui peut-être... Les journaux n'arrivaient, des tonnes de la Pravda ou des journaux communistes arrivaient au siège, c'est moi qui allais chercher pour les faire traduire par des copains qui connaissaient le russe. Mais bon, je ne regrette rien du tout. Je pense que je me suis planté comme des jeunes gens de cet âge-là.
Et à partir de ce moment-là, vous prenez une autre orientation, vous prenez une orientation plus politique, et depuis 1965, vous allez aux élections, Robert.
Oui, non, mais non, j'allais aux élections, Robert, mais à l'époque, j'étais membre de la direction du Parti communiste, hein, la première élection à laquelle j'ai participé ici. Non, c'est pas une autre direction, bon, j'étais là. Mais, bon, honnêtement, je crois qu'on avait une conception de l'élection qui était une conception gauchiste, quoi, en fait. On allait pas pour gagner les élections, on allait pour faire la propagande du parti, pour expliquer aux gens en espérant, bon, gagner si c'était possible, mais gagner, c'est pas l'essentiel.
Nous sommes en 1971. Alfred-Marie Jeanne est élu à
Oui, mais
Guyère-Pilote.
je n'avais rien à voir avec l'indépendance à l'époque. Contrairement à ce qu'on a raconté par la suite, moi, je sais que j'ai rencontré dans une veillée au François, il y avait un copain, on avait ma première femme, sa tante était au François, la Dumaine, Madame Ledmise. J'ai trouvé à une veillée, il y avait là Maurice Doré, il y avait Marie-Jeanne. Il y avait un autre copain qui était élu à Rivière-Salée, qui était aussi un parent à ma femme. Et puis, puis moi, il se foutait de moi parce que j'avais fait campagne, enfin, j'avais pas fait campagne d'ailleurs, mais j'avais expliqué pourquoi j'étais pour l'indépendance. Et bon, mais Marie-Jeanne n'avait rien à voir avec l'indépendance. C'est un petit peu après qu'il y avait un copain qui s'appelait Jean-Marc Pulvar, Marc Pulvar qui était. Par exemple,
Marco.
Marco,
Oui.
qui lui était le penseur, à mon avis, de la parole au peuple, à mon avis, qui était indépendantiste, effectivement.
Et à partir de ce moment-là, donc, vous montez aussi le GRS, et
J'ai
alors vous
monté le
avez
GRS à
un
partir
ami de toujours qui est Monsieur Jean Elie, qui lui se positionne sur Ajoupa Bouillon, et vous vous ferraillez sur le Robert.
Oui. On avait dit, oui, on avait dit à la Joupa, on ferme notre gueule, on parle pas du tout de l'indépendance. Et au Robert, j'explique pourquoi les types ont foutu à la porte. Et quand Edouard a été élu, quand on a appris ça, je suis arrivé au Robert en partant du Robert, en partant du Robert, où se trouve la Joupa, avant celui qui devait être son premier adjoint, qui s'appelle l'Ordino. Et Jean, je ne me rappelle même plus son prénom, Jean Lordino, qui a été son premier adjoint, n'avait jamais paru aux élections. Alors il était communiste. Il n'avait jamais paru aux élections à la Joupa Bouillon avec Edouard. Je suis arrivé là avant lui. Bon, les communistes, ils s'en foutaient. Bon. Puis après, ils ont essayé de casser ça, ils ont reconstitué leur cellule. Et ils ont fait annuler les élections, ils ont démissionné, et ils ont fait les élections ont eu lieu quelques jours avant le drame de Chalvet en 74, en février 74.
1979, c'est une date aussi importante pour vous, Édouard de Lépine.
Oui, c'est des dates extrêmement importantes parce que on a perdu les élections de 78, il y a les élections législatives de 78, où j'ai été candidat avec un copain qui s'appelle Vincent Placody, qui est un grand écrivain aussi. Et bon, on n'a pas été encore une fois aux élections pour gagner, mais pour expliquer le truc pour l'indépendance. J'ai retrouvé ce truc pour l'indépendance de 78. Et je comprends que les gens n'aient pas pu voter pour nous, n'aient pas voté pour nous.
Mais toute la gauche en 78 est battue. Et il me semble, dans les derniers écrits que vous êtes en train de faire, qu'à cette époque-là, je crois qu'Alfred-Marie Jeanne se présente pour la première fois aux législatives également.
Non, 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 pas à cette époque-là, il a refusé de participer jusqu'à. Il n'est revenu aux élections qu'en 89 à peu près. 89-90. Il est revenu au municipal, mais aux élections législatives, il participait pas. Il participait pas à ça. Les élections, c'était les élections françaises, pas voter. Non, c'est un truc incroyable.
Et vous, donc, dans cette période-là, vous avez...
Non, j'ai commencé à réfléchir, honnêtement.
À ces législatives, qui c'est qui gagne aux législatives?
Ben, législature, la droite avait gagné complètement. La droite, ça a dû sabler au sud, mais partout, la droite, sauf à Fort-de-France, évidemment, où Gratian où Césaire avait résisté, mais comme d'habitude. Mais la droite a gagné ces élections-là.
Et qui c'est qui était allé à cette époque-là dans le sud contre le député du sud, vous vous rappelez pas?
Non, il y avait, enfin, il y avait un député communiste, il y avait un candidat communiste, autant que je me rappelle, mais enfin, non, je ne me rappelle plus le nom. Mais il me semble que ce n'était pas Gratian. Il me semble que ce n'était pas Gratian.
Et donc, 1979, cette année qui est une année où toute la gauche est battue aux élections, et
Non,
puis...
79, enfin, il n'y a pas de grosse élection en 79. Il y a
78, 78, les
78.
législatives, oui.
Oui, législative de 78. Oui, c'est vrai que c'est l'année, probablement les années les plus pénibles de l'histoire de la gauche ici, parce que, bon, d'abord, c'est vrai que. La démagogie de Giscard d'Estaing a fini par payer, pas seulement ici d'ailleurs, mais bon, on est arrivé à faire peur aux Martiniquais en leur disant si la gauche gagne, ça veut dire la fin de la sécurité sociale, la fin de l'allocation familiale, la fin des indemnités de chômage, etc. Et bon, Césaire raconte ça dans un des textes que je publie, là, les gens qui disent, les facteurs qui disent aux gens, mi dernier-t-il l'argent, mon capote par là, parce que la présence, mais c'est passé, et ça finit, pour gagner la sécurité sociale encore. C'est un truc qui va durer jusqu'à 81, comme ça, et qui explique. Mitterrand ait été écrasé littéralement à la Martinique en 81, avec quelque chose comme 19%, moins de 19% des voix, me semble-t-il, 18% des voix.
Et ça vous empêche pas en 1982
Oui,
de rentrer
d'aller au PPM en espérant amener le PPM à l'indépendance. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que je ne m'en rappelle plus. C'était quelques années peut-être avant. J'avais été aux élections sénatoriales. On avait un seul grand électeur, c'était le maire de la Joux-Papillon, puisque c'était un seul grand électeur qui avait la Joux-Papillon. Et César m'avait un petit peu foutu à la fête en me disant, alors Edouard, comment ça va l'indépendance? Je lui ai dit, bon, j'ai dit l'indépendance, nous on n'avance pas de tortue, mais vous reculez à pas de géant. Il m'a dit, mais tu as toujours résolu les problèmes martiniquais avec des mots, continue, tu as résolu des problèmes. Bon. Moi, je voulais lui faire voir que, bon, c'était pas des mots. Quand je suis entré au PPM, je suis entré avec l'idée que j'amènerais le PPM à l'idée d'indépendance en 82. Bon, j'ai dû renoncer vers 85, 86.
Mais quand vous arrivez, pratiquement au même moment, Césaire signe le moratoire.
Oui, quand j'étais pour le moratoire. J'étais pour le moratoire comme j'avais été pour le vote Mitterrand. Alors que chez nous, on avait décidé, enfin chez nous, je veux dire au GRS à l'époque, on avait décidé de ne pas voter Mitterrand, de le faire un petit peu comme le PC. Alors, je me rappelle d'ailleurs, Silbert s'était fait avoir pour ça, il avait rencontré Camille Larcière. Et il avait discuté de ça. Camille lui avait dit qu'il voterait, le PPM voterait contre ça. Et Gilbert était reparti en disant, bon, donc nous ne sommes pas tellement cons que ça. Si le PPM va voter contre, nous ne pouvons pas voter pour. Ils ont voté, mais je crois qu'ils avaient fait ça un vendredi. Et puis le samedi, il y a eu un truc du PPM et le PPM a dit non, non, non. On va voter Mitterrand, mais à 11 voix contre 10. Il y a 11 voix contre 10, il y a une seule voix. Et Camille a expliqué, il m'a expliqué aussi derrière moi, bon, je ne pouvais pas mettre Césaire en difficulté, faire battre Césaire au PPM, quoi. Mais à l'époque, ça veut dire que le parti PPM, à l'époque, c'est vraiment un parti vraiment démocratique, où la liberté d'expression, pas une plaisanterie, les gens. les gens ont le droit de s'exprimer, les gens. Césaire a été. Enfin, qui appelait à voter Mitterrand, a eu une voix de majorité, 11-10.
Ça veut dire quoi à l'époque? Quand vous dites qu'à l'époque on pouvait discuter, ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire qu'on discutait. On s'exprimait librement à l'époque au parti.
Vous insistez sur l'époque, Édouard de Lépine. Vous insistez sur le mot à l'époque. Ça veut dire quoi à l'époque?
Non, je veux dire qu'au sein du parti, c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, y compris à l'époque où je suis entré au parti, en octobre 82. C'est un parti où il y a, n'a pas la liberté de faire n'importe quoi, mais on a le droit d'avoir des opinions qui ne sont pas forcément celles de la direction de la majorité. On a le droit de les exprimer. Bon, mais une fois que le vote est fait, il est fait. Il faut suivre. Il faut suivre. Il n'y a pas de truc de mise en congé, des trucs de ce genre, ça n'existe pas. C'est une plaisanterie, ça.
Édouard de Lépine, nous avons parcouru pratiquement 86 années, là.
Oui.
Extraordinaire, d'une vie intellectuelle intense, d'une vie politique agitée, d'une vie d'idéologie. Aujourd'hui, quelle analyse vous faites de toute cette situation? Quelle conclusion vous tirez de tout ce parcours extraordinaire?
C'est vrai que probablement j'ai un petit peu changé par rapport disons, la dernière période. La conclusion de ce livre, je l'ai réécrite parce que c'est paru juste après. C'était prêt en décembre 2015. Mais heureusement que ce n'est pas encore sorti. Mais je crois que...
Rappelez le titre de ce livre.
Ouais, nous sommes des nains sur les épaules d'un géant. Nous sommes des nains sur les épaules d'un géant. C'est une fois de vieux sages du XIIe siècle français. Nous sommes des nains. Si nous voyons plus loin, c'est parce que nous avons les yeux plus perçants ou la vue plus meilleure. C'est parce qu'ils nous portent en l'air de toute leur hauteur gigantesque.
Et le géant, là, pour vous, c'est...
C'est ça.
C'est qui, le géant, là, pour vous?
Pardon?
Le géant, pour vous, c'est qui?
Bon, pour nous, enfin, en tout cas, pour moi, en tout cas, c'était Césaire. Et moi, je crois que... Et j'écris ça en 78, et pas en 81, c'est pas après mon adhésion au parti. J'écris ça... Et ça m'a valu un truc avec des camarades du GRS. Hein, parce que, effectivement, je considérais que nous voyions plus loin que Césaire, que nous voyons mieux que lui. Mais en réalité, non. Je crois pas. Non seulement nous ne voyons pas plus loin, mais il nous fallait regarder derrière nous pour voir d'où on venait. Et le chemin qui restait à parcourir pour assurer ses positions, moi, il me semble.
Et sur cet aspect des choses, toute la question des idéologies, à votre avis, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui à la Martinique?
Oui, je crois que ça a du sens. Il existe une gauche et il existe une droite à la Martinique. Mais je crois que ce qui me paraît nouveau, c'est d'admettre qu'à droite aussi, il y a des gens qui peuvent avoir de bonnes idées sur des questions importantes. Comme pour les gens de droite, admettre qu'à gauche aussi, c'est un petit peu ce que fait Macron, je crois. Je ne suis pas macroniste à fond, j'ai voté Macron, comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais je pense qu'effectivement, il faut essayer autre chose. Je pense qu'aujourd'hui en particulier, au lieu de continuer, pour reprendre l'expression que Césaire utilise, à l'époque, au lieu de poser des œufs de mouche sur des balances de toiles d'araignées, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir et de considérer que l'affaire de la libération du peuple martiniquais, c'est-à-dire de son accession à la responsabilité, c'est une affaire qui ne peut venir que du consentement du peuple martiniquais et du peuple martiniquais, sinon tout entier, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront peut-être contre. Mais enfin, vraiment rassembler le plus large contre le plus étroit. Et il faut absolument, à mon avis, au lieu de continuer cette guerre imbécile, à mon avis, que nous faisons aussi bien du côté du PPM que du côté de Marie-Jeanne, il faut que nous mettions là. Moi, j'ai essayé d'avoir Marie-Jeanne, d'ailleurs, cet an dernier, je ne l'ai pas eu, malheureusement. Bon, peut-être qu'il n'a pas voulu répondre non plus, parce qu'il ne peut pas ne pas avoir reçu mon message.
Vous vouliez lui dire quoi, Édouard de Lépine ?
Non, je voulais lui dire que, bon, il faut arrêter ça, quoi. Il faut arrêter ce jeu de massacre, et que, bon, il faut discuter sérieusement les questions, voir exactement sur quoi on peut être d'accord, mais on ne va pas continuer à faire cette petite guerre imbécile sur la TCSP, sur le lycée, sur les trucs de ce genre. Non, je crois qu'il faut dépasser ça.
Vous avez appelé Serge Letchimy sur la même question ?
Oui, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Serge. Bon, je pense qu'on n'est peut-être pas tout à fait d'accord là-dessus, mais je crois que Serge est certainement aujourd'hui la personne qui peut le mieux comprendre ça, à mon avis.
Ça veut dire quoi ?
Non, je pense que c'est vrai que les jeunes types qui sont là, en général, bon, je le regrette vraiment profondément parce que je pense que s'il les a, c'est un petit peu la conclusion de mon article de ce jour. Ce que j'ai fait pour cette préface. Je crois que il faut vraiment, il n'y a qu'une stratégie possible, c'est celle qui cherche à réunir le plus grand nombre de Martiniquais, le plus grand nombre de Martiniquais. Et à mon avis, ce n'est pas du tout, c'est celle qui considère que la solution du problème martiniquais dépend du combat du peuple martiniquais tout entier, tout au moins d'une large fraction du peuple martiniquais, réunie dans une commune espérance et regroupée autour d'un même idéal. Autrement dit, PPM, nous pensons que la solution du problème martiniquais passe par la création d'un consensus martiniquais, un consensus martiniquais, et que notre seule arme, mais une arme décisive, c'est et ne peut être que l'union du peuple martiniquais. Moi, je crois ça profondément. Je pense que nous n'avons peut-être pas fait assez d'efforts pour ça. Dans ce sens-là, nous sommes laissés embarquer. C'était celui qui... Bon, se distinguerait le plus des autres, etc., au lieu de rassembler le plus large contre le plus étroit, on a essayé de rattraper, d'être le plus étroit possible, c'est-à-dire d'avoir ses propres perspectives comme étant les perspectives valables pour tout le monde, et non pas de discuter avec les gens. Ce qui est en train de se passer à Sainte-Marie, de ce point de vue, est une catastrophe, à mon avis, je crois.
Très bien. Écoutez, Édouard de Lépine, il y a tellement de choses à dire. Sur vous, sur tout ce que vous faites, sur vos œuvres. Nous prenons un engagement, oui. C'est celui de revenir vous voir, oui. Et d'essayer de marquer dans le numérique, puisque c'est sur cela que nous travaillons, oui. Toutes ces expériences extraordinaires dont vous nous parlez, parce que quand je regarde l'ensemble de l'œuvre que vous avez faite, je me rends compte que vous avez travaillé sur beaucoup de choses, vous avez travaillé sur toute la pensée de Césaire, oui. Mais vous avez aussi travaillé sur la question du 22 mai et d'avril, oui. Et du 27 avril. Vous avez travaillé sur énormément de sujets et on ne peut pas imaginer qu'on puisse parler de tout une seule fois. Donc je vous propose qu'on prenne date et qu'on prenne un rendez-vous régulier pour que vous puissiez nous donner votre avis sur toutes ces questions, parce que ce qui est étonnant dans la rencontre que nous avons avec vous, c'est de voir à quel point votre pensée est verte.
Eh bien, merci, je pense qu'on va... Enfin, il y a encore beaucoup de choses à dire. Bon, okay, il y a ici, je pense, une centaine de cartons, je pense, essentiellement, tout ce qui concerne Césaire, la PPM, puis la gauche. Bon, il y a quelques trucs de Marie-Jeanne aussi, l'extrême gauche. Mais enfin, j'ai des archives derrière là. également, bon, sur toute l'histoire de la Martinique. Et puis, pas seulement sur ça, moi, je suis en train d'essayer de faire quelque chose sur la Catalogne actuelle. Bon, parce que, vraiment, pour une fois, je suis pas d'accord avec les indépendantistes de Catalan. Pour une fois, je veux dire, bon, quand je pense à ce que j'ai pu avoir de discussion avec les camarades espagnols en 53, dans les années 70, en 77, où je les ai rencontrés également. Bon, quand je vois leur attitude aujourd'hui, je comprends pas. Je comprends pas un petit peu. Ça risque d'aller un petit peu comme à Porto Rico. Vous savez, moi, j'ai connu Porto Rico à une époque où vraiment les indépendantistes portoricains, c'était les types qui me faisaient rêver. Et puis bon, au fur et à mesure, ils ont été battus aux élections. Et puis, ils sont dans l'état où ils sont aujourd'hui, probablement une 12-15% de la population indépendantiste à Porto Rico. Je crains que ça en arrive aussi à Catalogne.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci Édouard de Lépine et on vous retrouve très bientôt.
Oui, allez, ben à bientôt. À bientôt.